bienvenue, bonne matinée. Voici un nouveau journal.
Europe Matin, Lionel Gougelot.
À la une ce matin, la colère et la polémique au Texas. La police accusée de ne pas avoir agi assez vite pour sauver les 19 enfants tués dans une école primaire. Hasard du calendrier, le lobby des armes tient dès aujourd'hui sa grand-messe annuelle à Houston. Europe 1 est sur place dans un instant avec notre correspondante Aviva Fried. Je suis désolé, les excuses du patron de Ferrero dans les colonnes du Parisien ce matin. 81 enfants contaminés à la salmonelle après avoir mangé des œufs Kinder. Et puis la mer avance. Et la Terre recule, conséquence du changement climatique. Nos côtes sont de plus en plus rongées par la montée des eaux. 126 communes concernées. Reportage à Lège, Cap-Ferré, dans un instant. 8h15, votre invité Sonia Mabrouk.
Bonjour Lionel, bonjour à tous. Notre invité ce matin, l'ambassadeur de Chine en France, Lou Shai. Quelle est la position chinoise sur la guerre russe en Ukraine? La Chine aide-t-elle la Russie à contourner les sanctions occidentales? Et puis bien sûr, le sort des Ouïghours. À tout à l'heure pour évoquer tous ces sujets.
À tout à l'heure, Sonia. Il est 8h. Le journal est présenté par Élise Dangean.
Europe 1.
À la douleur et l'incompréhension s'ajoute la colère, celle de parents meurtris dans leur chair 48 heures après la fusillade dans une école du Texas qui a fait 22 morts, dont 19 enfants. Une polémique prend de l'ampleur. Aviva Fried, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Aviva, des familles de victimes toujours sous le choc dénoncent l'inaction des forces de l'ordre au moment du drame.
Oui, et la polémique est en train d'enfler. Le tireur serait en fait entré directement dans l'école, alors qu'auparavant, on avait dit qu'un officier présent sur place avait tenté de l'empêcher d'avancer. À leur arrivée, les policiers ont essuyé des coups de feu, mais ont mis ensuite une heure avant d'entrer dans l'école. Des images montrant la police restreignant des parents ont aussi suscité l'indignation, beaucoup se demandant si les forces de l'ordre n'auraient pas dû plutôt utiliser toutes leurs ressources pour arrêter le tireur. Et puis, une fois dans l'école, les policiers ont dû attendre qu'on leur apporte une clé pour entrer dans la salle de classe où était le tueur. Y a-t-il eu négligence, bavure, incompétence? Autant de questions auxquelles les policiers vont devoir répondre rapidement.
Et dans ce contexte, Aviva, hasard du calendrier, aujourd'hui démarre le congrès annuel du lobby pro-armes, la NRA, le congrès où l'ancien président Donald Trump est attendu.
Oui, Donald Trump, c'est un peu la star ici, l'ancien président est très apprécié des membres de la NRA. Un rendez-vous très important. En 2016, le lobby des armes avait donné beaucoup d'argent à la campagne de Donald Trump et le groupe, avec ses 5 millions de membres, représente un important réservoir de voix si l'ancien président venait à se représenter. La tuerie d'Uvalde ne l'a pas dissuadé de venir et d'ailleurs ici, on considère que restreindre l'accès aux armes n'aurait pas empêché le massacre. C'est en tout cas ce que pense Mary, qui est membre de la NRA.
Si vous enlevez les armes des mains des gens qui les ont légalement, ce qui va se passer, c'est qu'ils ne pourront plus se protéger. Protéger leurs voisins, leurs amis, leurs écoles, leurs églises.
À Houston, Aviva Fried, Europe 1.
Notez que Joe Biden se rendra sur les lieux du drame dimanche. L'actuel locataire de la Maison Blanche rencontrera les familles de victimes. En Ukraine, les combats s'intensifient dans le Donbass. Le président Zelensky accuse la Russie de génocide dans l'est du pays et dénonce les déportations de civils. Les forces russes ont également bombardé Kharkiv hier, alors que la ville avait retrouvé un semblant de vie normale ces dernières semaines.
Dans l'actualité également, les excuses du patron de Ferrero ce matin. Le patron qui tente d'apaiser après le scandale sanitaire autour de Kinder.
81 enfants intoxiqués à la salmonelle, 22 hospitalisations et des parents désœuvrés, écœurés même, auxquels a tenté de répondre Nicolas Nekoff. Dans les colonnes du Parisien, le directeur général de l'entreprise qui fabrique les Kinder fait son mea culpa, Martin Lange.
Je suis profondément désolé, ce n'est pas acceptable. Voilà les mots du patron de Ferrero face au lecteur du Parisien. Il admet une défaillance. Alors d'où vient cette contamination à la salmonelle? Visiblement d'une cuve à beurre dans l'usine d'Arlon en Belgique. Usine qui a été fermée, mais les premières traces de la bactérie datent du mois de décembre. Pourquoi avoir attendu les premiers cas? Toute l'usine a été nettoyée, on a jeté tout ce qui a été fabriqué, se justifie Nicolas Nekoff. Arlon n'est pas une usine poubelle. La production sera d'ailleurs relancée jusqu'à début avril et les premières alertes, d'abord en Allemagne et en Angleterre. Le groupe a réagi aussi vite qu'il a pu, selon le DG. 3000 tonnes de produits Kinder ont été retirées du marché à la veille de Pâques. Ferrero a perdu 40% de son chiffre d'affaires, mais pas suffisant pour rassurer les parents. Alors Nicolas Nekoff leur promet des réparations. 90% des demandes ont été été satisfaites selon le DG, la plupart avec des bons d'achat. Mais pour les cas les plus graves, le patron souhaite un dédommagement individuel, famille par famille. Enfin, concernant la réouverture de l'usine d'Arlon, une demande a été faite pour le 13 juin, dans 15 jours à peine. Mais avec du changement, la moitié des tests sanitaires seront désormais assurés par un laboratoire indépendant.
Merci Martin Lange.
8h05 sur Europe 1, en ce grand week-end de l'Ascension. Vous êtes peut-être en famille au bord de la mer, vous allez pouvoir passer la journée sur la plage. Eh bien, profitez-en bien, car d'ici quelques années, pas sûr qu'on puisse encore courir pieds nus dans le sable.
Et oui, conséquence de la montée des eaux et du changement climatique. Et il y a urgence, c'est le dossier qu'Europe 1 a choisi d'ouvrir ce matin. 126 communes sont classées prioritaires face à l'érosion côtière. Parmi elles, Lèche-Cap-Ferré, où un habitant se bat contre les éléments pour tenter de sauver son petit bout de littoral. Il s'est confié à Thibaut Hue.
Devant sa maison en bois, Benoît Barterotte fait face à la mer, seul tout au bout de la pointe du Cap Ferré.
Là, vous voyez cette plage à droite, magnifique, et continuer là sur avec des dunes, et bien maintenant vous voyez que de la mer.
Pour sauver son petit paradis, l'homme a construit une digue de 450 mètres avec ses propres fonds. Des rochers, du béton et du sable repoussent l'eau depuis plus de 20 ans.
Et si elle part, il y a 300 ou 400 baraques qui partent dans les 2 ans ou 3 ans qui suivent. Vous imaginez que le courant qui nous arrive dessus, c'est 400 millions de mètres cubes de fois par jour, ça serait balayé très vite si ma digue tenait pas.
Des travaux titanesques qui soulagent les habitants, mais la ville de Lèche-Cap-Ferré reste réaliste. Malgré la digue, 200 logements sont toujours menacés par l'érosion d'ici 2050 à 2100. Des biens d'une valeur de 5 à 10 millions d'euros en front de mer. Le maire Philippe de Gonneville s'inquiète.
Où les relocaliser au Cap-Ferré, je ne sais pas. Si on reste sur la même commune, il faut les relocaliser dans le bourg de Lèche. Bien évidemment, dans le bourg de Lèche, vous n'avez pas la proximité ni du bassin d'Arcachon, ni de l'océan.
Alors l'élu propose de créer un fonds d'indemnisation pour les habitants et les encourager à partir quand la mer aura repris ses droits. Au Cap Ferré, Thibaut, Europe 1.
La carte des 126 communes classées en zone prioritaire face à l'érosion côtière est à retrouver sur notre site europe1.fr.
Alors le changement climatique, la transition énergétique, Emmanuel Macron l'a rappelé, c'est l'une des priorités de son gouvernement et ce sera sans doute à l'ordre du jour aujourd'hui à Matignon.
Elisabeth Borne réunit ce matin les membres du gouvernement pour transmettre à chacun sa feuille de route, une façon de montrer que le gouvernement est au travail, Arthur Delaborde.
Pas de pont de l'Ascension, Elisabeth Borne va distribuer ce matin les feuilles de route à chaque membre du gouvernement. Rapidité, efficacité et résultat, c'est la méthode de la Première Ministre, assure Matignon. Mais jusqu'à présent, les débuts de la nouvelle équipe sont quelque peu laborieux, déjà plombés par les accusations de viol visant le ministre de la Solidarité, Damien Abad. L'ambiguïté règne aussi sur les grands chantiers à venir, sur le pouvoir d'achat par exemple. Après avoir assuré que les mesures pour faire face à l'inflation seraient annoncées avant les législatives, l'exécutif a rétro-pédalé cette semaine, précisant que ce paquet pouvoir d'achat serait finalement présenté après le scrutin des 12 et 19 juin. Le flou règne aussi sur la réforme des retraites. Le gouvernement semble vouloir temporiser sur ce dossier sensible. La réunion de tout à l'heure doit donc permettre de clarifier un certain nombre de points. Mais a priori, les journalistes ne pourront pas poser des questions aux ministres qui seront présents.
Précision signée Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.
On va parler maintenant d'un film culte du cinéma américain, Les Affranchis, sorti en 1990. Eh bien, ce film perd l'un de ses acteurs aujourd'hui.
Oui, le gangster Ray Liotta est décédé à l'âge de 67 ans. Il était en tournage pour un long métrage en République dominicaine. C'est lui qui tenait le rôle principal dans le film de mafia de Martin Scorsese. Souvenir avec Marie Jiquel.
Ray Liotta avait réussi la prouesse de se faire remarquer dans Les Affranchis alors qu'il partageait l'affiche, cette affiche noire à l'écriture blanche, avec deux monstres du cinéma, Robert De Niro et Joe Pesci. Dans ce film d'apprentissage, il y tenait le premier rôle, celui d'Henry Hill, jeune New-Yorkais qui rêve de devenir gangster et apprend les ficelles auprès de deux mafieux déments et explosifs, Jimmy et Tommy.
We always called each other good fellas.
Un an d'audition passé devant le réalisateur Martin Scorsese, c'est son calme, disons sanguin, un calme jamais très serein qui va convaincre le boss. Ray Liotta avait alors enfilé son costume de truand et adopté cette gestuelle bouillante. If you touch her again, you're dead. Ce trio violent a marqué l'histoire du cinéma à coups de pelle et d'humour noir, des répliques cinglantes et la scène la plus troublante du cinéma, celle où Joe Pesci le teste au restaurant, un Joe Pesci humiliant face à un Ray Liotta très gêné.
I make you laugh. I'm here to fucking amuse you. What do you mean funny? Funny how? How am I funny? you're funny.
Par la suite, Ray Liotta enchaînera les rôles de flic, jamais loin des magouilles, mais rien d'égal à Henry Hill.
Marie Jiquel.
On termine avec le football. Suspense encore entier après la rencontre d'hier entre Auxerre et Saint-Etienne.
Les deux clubs se sont séparés sur un match nul, un but partout. En match aller, des barrages pour l'accession en Ligue 1. Match retour prévu dimanche.
Et ce sera en direct sur Europe 1 à partir de 19h. Les supporters de ces deux monuments du foot français n'ont pas fini de transpirer. Merci Élise Dangean, c'était votre journal.